De retour sur le salon Planète Durable. Cette fois-ci, nous allons parler avec les amis de la Terre de la finance, de ce qui fâche dans la finance, c'est-à-dire tout ce que les banques vous cachent en finançant par exemple des recherches sur le pétrole, des fonds un petit peu crapuleux. Tout ça est organisé par Cyril Souche de cedurable.info. Bonjour Cyril.
Bonjour Frédéric.
Ça va ?
Ça va très bien.
Marathon se poursuit ?
En forme pour la journée.
Très bien. Donc avec nous, une responsable finance, les amis de la Terre, nous allons vous la présenter. C'est Cyril qui a toutes les clés de ce débat.
Bonjour Julien Trenot. Vous êtes chargé de campagne sur la responsabilité des acteurs financiers au sein de l'association Les Amis de la Terre. Alors, investissement bancaire, industrie polluante, le lien est étonnant, mais vous allez nous expliquer qu'il y a un impact réel des banques sur le climat, qui se réduit pas d'ailleurs aux consommations d'énergie de leurs bâtiments ou au transport des salariés. Il est avant tout lié à la nature des activités qu'elles financent, comme le disait Frédéric Benoît en introduction. PME, crédit immobilier, compagnie pétrolière ou technologie verte, c'est vrai que leur choix d'investissement joue un rôle majeur dans le développement d'une économie plus ou moins polluante. Alors, avant d'en rentrer dans ce sujet qui est un peu un cœur sensible du développement durable, puisque si l'argent, c'est le nerf de la guerre, ça peut être aussi le carburant d'un développement durable en fonction des orientations. À titre personnel, Juliette Renaud, comment êtes-vous devenue chargée de campagne aux Amis de la Terre ?
Bonjour. Alors, en fait, j'ai toujours été impliquée dans le milieu associatif, à titre militant ou professionnel. Et en fait, j'ai vécu pendant 5 ans en Argentine, où je travaillais dans un organisme de défense des droits de l'homme. Mais je travaillais sur la question de l'impact des activités minières sur les populations locales. Et c'est là où j'ai commencé à faire le lien entre tout ce qui est environnement, social et impact sur les populations. Et donc, en rentrant en France, c'est tout naturellement que je suis allée aux Amis de la Terre pour un peu continuer et voir qui finançait finalement ces activités qui avaient un impact autant négatif dans les pays du Sud.
Donc vous aviez déjà perçu qu'il pouvait y avoir une origine financière dans l'investissement à des conditions qui sur place se révèlent catastrophiques en matière sociale ou environnementale ?
Oui, de toute façon, les entreprises, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc c'est pareil pour les entreprises, c'est des investissements de millions ou de milliards d'euros parfois, et donc bien sûr sans argent et donc sans financement principalement du secteur privé mais aussi du public, ces entreprises ne peuvent pas mener à bien ces activités.
Qu'est-ce qu'elles extrayaient, les mines que vous avez supervisées ou desquelles vous vous occupiez ?
Alors, il y a un peu de tout, or, cuivre, argent, plomb, uranium aussi, beaucoup de plus en plus. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'extraction minière, c'est faire exploser des montagnes pour essayer de retirer les petites particules de minéraux qui sont disséminées dans la roche. Et on utilise, que ce soit des litres et litres d'eau par jour, donc ça peut aller jusqu'à 100 millions de litres d'eau par jour, de grandes quantités d'énergie aussi. Et ça crée une forte pollution aussi au niveau local avec l'utilisation notamment de cyanure ou d'acide sulfurique et la contamination par des métaux lourds, de l'eau, de l'air et des sols.
Alors, ce qui est amusant, c'est de savoir que c'est peut-être aussi à l'origine, c'est-à-dire que toutes ces matières premières extraites, c'est le début de l'argent, du commerce, de l'économie.
C'est surtout
ce qui fait marcher en tous les cas.
C'est surtout le début de tout ce qu'on consomme ici dans les pays du Nord, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a une course aux matières premières et à toutes ces ressources aussi au niveau des ressources en énergie, donc pétrole, gaz, etc. C'est parce que le niveau de consommation et par exemple le fait qu'on est poussé à renouveler notre téléphone portable tous les ans, etc. Ça nous pousse à chercher toujours plus de ces matières premières et à des fins pas toujours si utiles que ça.
Nous avons parlé, Frédéric, je pense, c'est au niveau de l'or. C'est vrai que symboliquement, on va aller financer l'extraction d'or, qui est la monnaie d'échange de base.
La base du commerce, c'est la sécurité, c'est notre fonds de garantie.
Alors comment les Amis de la Terre se sont intéressés aux établissements financiers ? Parce que ça ne saute pas spontanément aux yeux, le lien entre établissements financiers, industrie polluante ou conditions sociales déplorables.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Amis de la Terre, donc, c'est un réseau international, donc avec des membres dans plus de 70 pays et notamment beaucoup dans des pays du Sud. Et ces membres dans les pays du Sud ou d'autres organisations dans ces pays nous faisaient remonter le fait qu'il y avait des entreprises de France et d'Europe qui avaient des activités aux impacts négatifs dans leur pays. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, les projets controversés. Donc on a commencé, au début c'était des campagnes sur ces entreprises, et après on est remonté un cran au-dessus en disant finalement d'où vient l'argent pour financer ces entreprises. Et on a d'abord remonté en fait aux institutions publiques financières internationales, donc par exemple la Banque mondiale ou la Banque européenne d'investissement. Et c'est en 2005 finalement qu'on a élargi cette campagne en disant mais il y a aussi beaucoup d'argent et une partie grandissante qui vient du secteur privé, donc les banques mais aussi les assurances. Il faut savoir que les banques françaises, parmi les grandes banques françaises, sont parmi les plus grandes banques au niveau mondial.
Donc, quelle est la proportion privée, publique?
Ça varie beaucoup d'un secteur à l'autre, mais par exemple, quand on a des constructions, que ce soit par exemple, c'est surtout quand c'est des grands projets d'infrastructure, etc., comme des grands barrages, ou aussi, après, si on va dans la question des centrales nucléaires, etc., il y a toujours une partie privée, une partie publique. Il y a aussi une part grandissante du financement au travers des marchés financiers. Par exemple, dans le secteur des sables bitumineux, donc c'est le pétrole non conventionnel. Mais ça varie beaucoup d'un secteur.
C'est des fonds spéculatifs, c'est ça ?
Voilà, oui. Ouais,
qui rentrent en plus dans la boucle.
Alors, ces projets controversés, comme vous dites avec beaucoup de respect, vous êtes remonté un peu à la source de ces projets. Vous avez identifié qu'il y avait les institutions financières internationales, les banques privées. Donc, on rentre un peu dans ce secteur bancaire, puisque c'est une des révélations que moi j'ai découvert avec d'ailleurs Frédéric, puisqu'on en a parlé sur l'antenne de Fréquence Terre.
On a étudié un de vos rapports. Oui.
On dépose 5 000 euros sur un compte bancaire ou un fonds d'action et on pollue indirectement autant qu'un 4x4 pendant une année. Comment le secteur bancaire se retrouve en tête des entreprises les plus polluantes devant les pétroliers ou les extracteurs de gravier, par exemple?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur bancaire, donc ce qui pèse, hein, c'est pas les impacts directs, c'est-à-dire ce qu'ils ont, la consommation de leurs bâtiments, etc., ou leur consommation de papier, mais c'est les impacts indirects, c'est-à-dire l'impact qu'ils ont au travers des choix, des financements et investissements des entreprises. Et donc ce qu'on retrouve, c'est que il y a une part liée bien sûr au modèle de banque, donc il y a des banques comme BNP, Crédit Agricole, Société Générale, qui sont une grande partie de ce qu'on appelle d'activité de banque de financement et d'investissement, donc de financement des grandes entreprises. Donc automatiquement, quand elles financent des plus grosses entreprises, des entreprises plus polluantes, ça pèse plus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que une part de cet impact aussi d'émissions indirectes, d'émissions induites, qu'on appelle de gaz à effet de serre, c'est aussi dans les choix qu'elles font, parce que financer des grandes entreprises, on peut choisir de financer plus massivement le secteur pétrolier, ou on pourrait aussi très bien choisir de la même manière de soutenir et pousser les entreprises dans le secteur des énergies renouvelables ou la recherche pour plus d'efficacité énergétique.
Alors, je suppose que le cœur de cette problématique, c'est la recherche de bénéfices pour ces banques. C'est ça, c'est-à-dire qu'avec l'argent qu'on va leur donner, elles vont aller investir dans les secteurs les plus enrichissants pour eux,
oui,
pour elles.
Oui. Alors, c'est vrai que la première chose, c'est que souvent, pourquoi est-ce que nos comptes en banque peuvent polluer? C'est déjà ce qu'il faut le rappeler quand même, mais ce qu'avait quand même mis en lumière la dernière crise financière, c'est que notre argent ne dort pas dans un coffre dans les banques, mais elle est réutilisée, donc celle-ci, pour faire des prêts aux investissements. Leur choix, en fait, si elles investissent dans un endroit ou dans un autre, ça va avoir un impact différent.
Vous nous expliquez un petit peu le mécanisme, c'est-à-dire que, donc, en gros, j'ai de l'argent, je le mets sur mon compte d'épargne, je me dis, là, il bouge pas, il est un petit peu comme la chaussette dans l'armoire de ma grand-mère, il bougera pas, il va peut-être même faire un petit peu de bénéfice, alors très peu en fait, 1,75%, on approche des 2% maintenant, et vous nous expliquez que finalement cet argent est capté par les banques. Alors, est-ce que le livret A est par exemple en cause dans ce genre de boucle financière?
Alors, en fait, non, le livret A, il finance en partie le logement social. Excusez-moi, j'avais oublié votre question précédente. Il y a une grande partie qui est due à l'inertie et des questions d'habitude, en fait, des liens aussi des banques avec certains groupes et entreprises, et finalement de continuer dans le business as usual et donc de continuer à investir un peu toujours dans les mêmes secteurs et de même de vendre aux clients un peu toujours les mêmes produits. Et donc ce qu'on dit pas souvent, c'est aux gens quand on leur propose une assurance vie, c'est que cette assurance vie, elle est investie en fait derrière ça, c'est des actions et des obligations. Donc si vous dites que vous êtes plus dynamique, ils vont vous mettre des placements plus risqués, donc des actions. Mais donc nous, ce qu'on a justement pour un peu
expliquer... Donc c'est principalement dans les assurances vie que ça se retrouve, ce genre de mécanisme.
C'est principalement en fait dans tout ce qui est placement des produits d'épargne sur les marchés financiers, parce que donc ça se retrouve principalement dans les grandes entreprises du CAC 40. Nous, ce qu'on a pour un peu éclaircir, parce que c'est parfois compliqué de comprendre tout ça.
C'est-à-dire qu'on achète un intitulé, c'est-à-dire on dit je veux placer ce placement-là, où on me garantit que si on bloque au moins 8 ans la somme que j'investis sur ce compte, il va être investi sur un intitulé en général, et on ne sait pas forcément. Alors on dit par exemple le développement durable, on dit les nouvelles technologies, et il y a une espèce de mix qui est fait par le banquier qui n'est pas forcément transparent. C'est un peu ce que vous dénoncez.
Exactement, c'est qu'il n'y a aucune, il y a vraiment aucune transparence, et il n'y a aucun effort de pédagogie déjà des banques pour leurs chargés de clientèle. Donc la plupart des chargés de clientèle eux-mêmes ne savent pas exactement si bien que ça qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre. En plus, avec l'agrandissement de toute la palette de choses qu'offre une banque, enfin, maintenant, les banques nous offrent aussi des téléphones portables, donc finalement, le chargé de clientèle, c'est surtout un commercial. Et donc, il n'y a bien sûr pas du tout cet effort de pédagogie pour le client et de dire, finalement, si vous choisissez plutôt une assurance vie, plutôt un livret A, plutôt le livret développement durable, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que déjà c'est un placement sûr ou pas sûr ? Donc ça, c'est la question, toute la question qu'il y a eu avec la crise financière. Et aussi, qu'est-ce qui va être fait avec cet argent ? Donc pour aider les gens, on a fait un petit guide qui s'appelle « Environnement, comment choisir mon épargne ?» et qui reprend donc tous ces différents produits d'épargne et qui met au clair un peu que ce soit le niveau de la sûreté, mais aussi surtout l'impact social et environnemental de ces placements.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces guides exactement ? Vous les avez établis de quelle façon ? Ils sont à destination du consommateur, c'est-à-dire
du grand public
qui va aller placer un petit peu. Ah, il y a une plaquette ici, d'accord. Je vais la regarder un petit peu en attendant. Mais donc expliquez-nous. Donc il y a comment choisir son épargne déjà. Est-ce que c'est toutes les banques ? Alors on va rentrer certainement avec Cyril dans le côté éthique du choix du consommateur qui veut aller placer son argent. Il y a certaines banques quand même qui sont vraiment pointées du doigt par votre organisme. Vous le disiez tout à l'heure, il y a la BNP, la Société Générale qui sont en tête. Des investisseurs dans des secteurs qui ne sont pas joyeux quand on veut se préoccuper de sa planète, c'est ça ?
Exactement, oui. C'est les plus grosses banques, bien sûr, qui sont les plus pointées du doigt, c'est celles qui financent les plus grosses entreprises. Mais c'est vrai qu'on regarde, par exemple, le Crédit Agricole qui était en tête donc de notre classement de l'impact sur le carbone des banques. Elle a un portefeuille d'actifs qui est inférieur, par exemple, à celui de la Société Générale. Mais au niveau de l'intensité carbone, donc pour chaque euro qu'on met au Crédit Agricole, qu'est-ce qui est investi ? Comme ils investissent massivement dans le secteur pétrolier, on a un poids plus lourd pour le climat. Donc c'est vrai que même si on regarde... à l'intérieur, on va dire, des gros groupes, des gros, on va dire, grosses banques, moyennes banques, etc., il y a aussi des marges de manœuvre en fonction du choix des secteurs. Et donc, dans le petit guide, c'est déjà un peu expliquer qu'est-ce qu'il y a, donc les différents produits d'épargne, mais aussi parler des autres formes d'épargne, donc que ce soit, par exemple, au travers de l'actionnariat solidaire. Donc, c'est là, aller directement, sans passer par une banque ou une société financière, soutenir un projet de l'économie sociale et solidaire, investir dans un projet avec son argent. On récupère aussi le contact et la relation entre l'épargnant et le porteur de projet, et aussi la transparence totale.
On reconnecte en fait l'argent avec ce pourquoi il va être utilisé et les gens qui vont l'utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un vrai investissement socialement responsable ? Je crois, malheureusement, je mets un point d'interrogation, est-ce qu'il est vraiment responsable ? Parce que les Amis de la Terre se sont intéressés à ça. Quand on prend conscience qu'il y a des investissements qui ne le sont pas, on a entendu parler de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Qu'est-ce que vous en pensez aux Amis de la Terre ?
Oui, alors là, c'est pareil. En fait, on essaye de nous perdre avec plein de dénominations différentes, donc fonds solidaires, fonds responsables, fonds éthiques, ce qu'on appelle aujourd'hui donc l'investissement socialement responsable, les fonds ISR. C'est finalement un peu le greenwashing financier, c'est-à-dire que il y a un joli nom, mais derrière ça, on a fait un rapport il y a quelques mois et on montre que c'est les mêmes entreprises que dans les fonds classiques, c'est-à-dire on retrouve Areva, BP, Total ou les banques elles-mêmes, BNP Paribas, etc. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il y a de responsable et pourquoi est-ce qu'on retrouve ces entreprises? C'est quand même un peu un leurre. C'est parce que en France principalement, le mode de sélection, c'est au lieu de, par exemple, d'exclure, on pourrait exclure les entreprises qui violent les droits de l'homme ou les entreprises qui polluent le plus, mais au lieu de faire ça, ils prennent le meilleur de chaque secteur. Donc le problème, c'est que quand on doit choisir entre le meilleur, entre BP, Shell et Total, ben, on aura de toute façon une grosse entreprise pétrolière dont les activités ont des impacts négatifs.
On prend pas le meilleur, on prend le moins pire en fait.
Voilà, okay. Exactement.
Qu'est-ce que vous conseilleriez alors? Il y en a pour qui c'est fait. Est-ce qu'on peut se dire déjà, moi j'ai déjà placé de l'argent dans une assurance vie. Bon, alors je crois que ça ne s'appelle plus vraiment comme ça, l'assurance vie. Bon, mais on m'a bloqué mon argent pendant 8 ans. J'ai dit je veux investir mon argent dans l'environnement. Qu'est-ce que vous avez? Donc on m'a dit bah il y a ça, il y a ce fonds éthique effectivement, sans être capable, et pourtant c'était le directeur de la banque hein, qui a ouvert ce compte, sans être capable de me dire ce qui se cachait réellement derrière. Comment on peut savoir comment est constitué un fonds? Bon, alors déjà, moi, le premier conseil que je donne, c'est de ne pas ouvrir le compte de façon impulsive. C'est d'aller d'abord voir son banquier, d'aller se documenter sur ce qui existe sur le marché, de rapporter le livret à la maison. Mais même avec un livret, des fois, c'est très opaque. On dit on va investir dans de l'éolien, dans des, puis on vous met une espèce de case chapeau dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'il y a finalement, et vous nous dites finalement, on retombe toujours sur les mêmes qui sont des marchés très, très juteux pour les banquiers. Ils ne peuvent pas s'en passer, il faut qu'ils en mettent partout. Alors, quelles sont les précautions quand j'ai en fait deux questions. Quelles sont les précautions à prendre quand on veut vraiment que son argent soit non polluant ou investi dans des industries non polluantes? Et si on a déjà investi, est-ce qu'il est trop tard pour le déplacer sans perdre l'argent qu'on a déjà placé?
Alors, bon, déjà, sur ce que j'ai pas précisé sur les fonds ISR, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui, depuis fin 2009, ont obtenu le label Novetic. Et ça garantit pas qu'il y ait pas d'entreprise controversée dedans, mais ça garantit au moins la transparence de la composition de ces fonds. Et donc, on peut aller soit directement sur le site de Novetic, soit normalement directement sur le site de la banque qui propose ce produit pour avoir l'intégralité des entreprises qui composent ce fonds. Donc la première chose que je conseille, c'est d'aller voir et de demander quand on est à son banquier, bah, donnez-moi la liste. Et là, on regarde directement, est-ce que chaque personne après a en jugé, est-ce que ça la gêne ou pas d'avoir telle entreprise ou telle autre.
Donc les labels font leur apparition dans les banques aussi.
Oui. Ça,
Novetic est un premier label.
C'est un label qui fait avancer quand même le monde de l'ISR dans le sens où il demande une certaine transparence et il essaye aussi de mettre un certain nombre de critères pour que au moins on ait des choses à peu près comparables. Après, comme disent, nous on recommande pas spécialement l'ISR. Une possibilité pour les gens qui veulent investir et savoir être sûr que leur argent ne va pas financer des choses avec lesquelles ils sont pas d'accord, c'est par exemple de placer son argent sur des comptes de la NEF. Donc la NEF, c'est pas une banque, c'est une société financière, puis ils ont pas les agréments pour gérer par exemple les comptes courants ou l'épargne liquide. Donc ça existe des comptes NEF, mais c'est géré par le crédit coopératif. Par contre, faut savoir que ce soit ces comptes courants ou quand on prend des comptes donc d'épargne à plus long terme à la NEF, tout cet argent est exclusivement réinvesti dans les secteurs social, culturel et environnemental. Ça, c'est la première chose. Les secteurs.
Est-ce qu'on peut choisir? Alors, là, vous nous conseillez carrément de changer de banque. Pour plus de sécurité, pour être sûr.
Disons que avec ce choix, on est vraiment sûr. Et en plus, la NEF est la seule société financière et société secteur financier à publier l'intégralité des projets qu'elle finance chaque année. Donc là, on a la transparence totale et on sait là où est utilisé notre argent. Après, il y a le pas de changer de banque qui tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais après, il y a même en restant dans une même banque, donc c'est avec notre petit classement carbone des banques, on a aussi sorti une calculette pour que les gens puissent évaluer l'empreinte carbone de leur argent.
Sur le site, hein.
Et donc, ça montre aussi que sans changer de banque, mais rien qu'en changeant de produit d'épargne, donc au lieu de mettre mon argent dans une assurance vie ou sur les marchés financiers, par exemple, je le mets sur un livret A, eh ben, on a un autre impact et on réduit fortement cet impact. Et donc, si vous faites le petit calcul, vous aurez non seulement, donc vous rentrez le montant que vous avez, la banque, le type de placement, vous aurez non seulement l'impact, mais aussi quel serait cet impact si vous le placiez ailleurs. Donc ça, c'est des éléments concrets pour que les gens puissent faire ces choix.
Qu'est-ce qui se cache derrière cette calculette? Comment vous avez fait les calculs? Vous avez pris connaissance de tous les produits financiers, de tout ce qui était financé, c'est ça?
Exactement. Alors en fait, ce projet, on l'a fait donc en partenariat avec le cabinet Utopie, qui est celui qui a réalisé les calculs à partir du bilan des banques, donc des lignes de bilan des banques, et de voir donc sur chaque chose où était investi l'argent, dans quel secteur. C'est un peu compliqué
C'est par banque ou c'est par produit financier?
Non, c'est par banque. C'est par banque, et donc c'est pour ça qu'après on regarde en fonction de où est placé cet argent et dans quelle banque, quel impact ça a. Et donc la calculette, c'est la traduction, on va dire, pour les épargnants du classement carbone des banques, en fait.
Un grand silence, donc moi je continue. Je m'attendais à ce que Cyril pose une question. En gros, la NEF, organisme financier qui n'est pas réellement une banque, vous venez de dire qu'elle était chapeautée par, vous parlez du crédit coopératif. Quel rôle il joue dans la NEF?
C'est juste que c'est le crédit coopératif qui est responsable, on va dire, pour devant l'État, de la garantie des dépôts qui sont faits pour la NEF, parce qu'elle n'a pas l'agrément pour avoir tout ce qui est argent liquide, donc argent qu'on peut retirer d'un jour à l'autre de nos comptes. Elle a juste l'agrément pour gérer des comptes qui sont de l'argent qui est placé à 2 ans ou plus. Donc le crédit coopératif, c'est juste un intermédiaire, on va dire, mais tout l'argent après est utilisé par la NEF. Et l'autre chose, c'est que la NEF aujourd'hui est en train d'essayer de créer un projet de banque éthique européenne en partenariat avec d'autres institutions éthiques au niveau européen, donc par exemple Banca Etica en Italie, qui a une autre taille, ou Fiare en Espagne, et donc aussi de pouvoir obtenir cet agrément pour être vraiment totalement gestionnaire et avoir toute l'indépendance nécessaire.
Vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, Juliette, ensemble, que vous aviez participé aussi à un petit film qu'a réalisé Jocelyne, le maire d'Arnaud, qui s'intitule « Moi, la finance et le développement durable », qui est sorti en octobre, et qui a été un peu le parcours de ce citoyen lambda que nous sommes tous, et qui découvre l'impact que peut avoir les banques et ce qu'ils font de notre argent, pour faire le lien avec l'étude dont vous parliez de Stanislas Dupré du cabinet Utopie, qui a sorti un livre « Que font-ils de notre argent ?». Là, c'est version film. Je crois que vous, les Amis de la Terre ont témoigné à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la réalisation de ce film, ce qu'il apporte et le message que vous avez voulu faire passer?
Oui, en effet, il y avait Yann Nouvel, qui est mon prédécesseur comme chargé de campagne, qui était interviewé dans ce film. Et on est partenaire de ce film, donc on l'accompagne notamment avec l'organisation de nombreuses soirées débats. Ce qu'il apporte, ce film, c'était ce premier déclic aussi. Finalement, mon argent ne dort pas. Et qu'est-ce qui en est fait? Mais c'est pas seulement les banques, c'est aussi, il faut savoir, notre argent au travers de l'épargne salariale, des fonds de retraite, donc aussi de toute la gestion au travers des institutions publiques. Il est réinvesti ailleurs et pas toujours dans ce qu'on aimerait, et on ne sait pas toujours où est-ce qu'il investit. Donc ce film est très intéressant parce qu'il pose vraiment beaucoup de questions et il pousse les gens à aller finalement demander des comptes à leurs banquiers, à leur caisse de retraite, à l'État, etc. et d'un peu aller voir plus loin et voir que bah, l'argent, c'est aussi un levier, vraiment, que ce soit nous, à notre échelle d'épargnants, en choisissant notre banque ou notre produit d'épargne, ou après l'État, les banques en allouant cet argent, c'est un levier pour changer aussi le modèle d'économie et le modèle de société qu'on a.
Au même titre d'ailleurs que l'argent dans la consommation, puisqu'on est sur le salon Planète Durable de la consommation dite responsable, l'argent qu'on choisit de mettre aussi dans l'achat de produits, ben, à une moindre mesure, va aussi orienter bien évidemment l'encouragement de tel type de production ou tel autre. Je vais citer un bref extrait du livre de Stanislas Dupré, justement, qui dit « Si l'on veut éviter la catastrophe climatique, nous avons 10 ans pour réallouer massivement les investissements des activités les plus polluantes, comme l'extraction pétrolière, vers l'efficacité énergétique. » On en a parlé hier avec Jean Jouzel. Et les énergies renouvelables, on sait à quel point elles sont un peu au point mort aujourd'hui avec ce fameux moratoire sur le photovoltaïque. Les banques et les épargnants ont un rôle clé à jouer dans cette transition, ça c'est vous qui le dites. Et donc Stanislas rajoute, selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, l'effort d'investissement annuel pour amorcer cette fameuse révolution énergétique nécessaire représente 7 fois le plan Marshall. C'est énorme. Et en même temps, c'est peu de choses par rapport à la bulle spéculative et au montant colossal de l'argent qui circule sur les places de marché. Quel est le rôle des Amis de la Terre dans la sensibilisation à la fois du grand public, mais aussi des banques, sur l'effet levier phénoménal qu'elles ont dans l'orientation de nos choix stratégiques?
Oui, donc nous, notre campagne, que ce soit cette campagne sur la responsabilité des acteurs financiers ou les autres campagnes qu'on mène, elles ont toujours plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la pression sur les autorités publiques et les politiques publiques pour essayer de changer la réglementation, les lois, parce qu'on a besoin de plus de régulation du secteur bancaire et des grandes entreprises. Et c'est aussi tout ce qui est la sensibilisation des citoyens, parce que sans prise de conscience de l'opinion publique, si les Amis de la Terre, on est tout seul à essayer de demander des changements, ça va pas changer grand-chose. C'est vraiment la population qui doit aussi le demander. Et donc, on accorde aussi beaucoup d'importance à tout ce qui est donc développement, comme je disais, donc là, ce petit guide sur comment choisir mon épargne. On avait sorti un autre il y a 2 ans, « Comment choisir ma banque ?». Sur aussi, on a un site internet financeresponsable.org, donc qui reprend tous ces éléments de façon simple et pédagogique, en organisant aussi des ateliers, des débats, en allant voir les gens un peu partout en France, mais aussi en étant en réseau au niveau européen et international avec d'autres organisations, et donc pour qu'il y ait cette vraie prise de conscience des gens, et aussi pour dire voilà, le secteur financier, c'est pas plus compliqué qu'un autre. Si on commence à regarder de façon simple, on peut très bien comprendre comment ça marche, et donc il faut qu'on reprenne la main et qu'il y ait un vrai contrôle citoyen sur les banques et sur l'État.
C'est vrai que les outils que font les Amis de la Terre sont vraiment à la portée de tous. Ils sont extrêmement simples, ils sont illustrés, on voit des graphiques. Et on peut, si on le souhaite, s'informer et comprendre où va notre argent, qu'est-ce que les banques en font et comment est-ce qu'on peut modifier nos actions. On va se retrouver après une courte pause musicale.
Fréquence Terre, la radio nature.
Retour sur le plateau de Fréquence Terre, sur le stand féminin-bio.com, sur le salon Planète Durable, porte de Versailles, au parc des expositions à Paris. Nous parlions de finances responsables avec Juliette Renaud, qui s'occupe des campagnes finances des Amis de la Terre. Nous parlions un petit peu de la nef, des campagnes qui, des déplacements financiers des banques qui ne sont pas forcément toujours très transparents. On ne sait pas toujours où on place notre argent. J'aimerais justement, Juliette, que nous revenions un petit peu sur la nef. Vous avez un petit peu piqué mon attention avec cet organisme qui n'est pas vraiment une banque mais un organisme financier. Je me demandais un petit peu comment ça marchait. Est-ce que placer son argent à la nef est aussi intéressant finalement que d'aller le placer dans des produits financiers chez BNP Paribas, qui est une des pires banques pollueuses que vous avez détectées?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, donc, quand on va à la nef, on a différents, comme dans d'autres endroits, il y a différents produits qu'on peut choisir. Donc il y a soit déjà on peut ouvrir, ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut vraiment avoir tous les mêmes services que dans une autre banque, donc c'est-à-dire un compte courant, un chéquier, une carte bleue, etc. Donc là, ça passe par le crédit coopératif, mais c'est la même chose.
Et la après, carte bleue qu'on a, c'est une carte de la nef ou c'est une carte du crédit coopératif?
C'est crédit coopératif nef, voilà.
D'accord, ils sont vraiment très liés. Hein.
Ouais, c'est-à-dire que c'est géré par le crédit coopératif, mais après l'argent qu'il y a sur notre compte est utilisé que par la nef. C'est vraiment une question d'intermédiaire et d'agrément finalement que n'a pas encore la nef et que cherche à voir.
Il faut passer par la nef quand même, parce que si on passe par le crédit coopératif, on peut aussi ouvrir des comptes.
Oui, exactement.
Mais alors, pas forcément éthique là.
Alors en fait, ce qu'il faut, donc quand on veut ouvrir un compte à la nef, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà, si on peut directement en allant sur le site internet, il y a des formulaires qu'on peut télécharger pour demander d'ouvrir un compte. Ou sinon, on peut aller dans une agence du crédit coopératif. Et là, il faut demander d'ouvrir un compte nef, parce que s'il y a aussi des comptes crédit coopératif classiques. Bon, le crédit coopératif, c'est dans notre classement des banques, c'est aussi dans les plus recommandés. Mais la différence, c'est que le crédit coopératif n'a pas la même transparence qu'à la nef. Donc, il y a quand même une petite différence à ce niveau-là. Et donc on va au crédit coopératif, on demande bonjour, je voudrais ouvrir un compte nef, et là donc c'est comme dans n'importe quelle banque pour ouvrir un compte, et la même sûreté du placement qu'on a. Après quand on ouvre un compte d'épargne à la nef, donc il propose différents comptes à terme, donc ça veut dire des comptes où on laisse notre argent pour au moins 2 ans, et là on peut choisir, soit on dit la nef, utilisez mon argent comme vous voulez dans vos projets donc culturels, écologiques et sociaux. Ou on peut, si on a une sensibilité plus sociale, on peut dire avoir un compte nef orienté social ou un compte nef orienté environnement. On peut aussi choisir, parce que par exemple les Amis de la Terre, mais il y a d'autres associations qui sont partenaires de la nef, de reverser une partie des intérêts aux Amis de la Terre ou à d'autres organisations.
Ah, une sorte de don.
Voilà, ouais.
Ah oui, d'accord.
Ça existe aussi dans d'autres banques, hein, pouvoir reverser une partie de ses intérêts à des associations. Mais donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est, on peut choisir aussi le niveau, donc il y a un niveau maximum de taux d'intérêt, comme dans toutes les banques, votre compte vous rapporte tant. Mais on peut aussi choisir de renoncer à une partie de ses intérêts, pour que la nef puisse finalement soutenir plus de projets. Et ça, pourquoi? C'est parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on a cette habitude à vouloir absolument que notre argent produise de l'argent, etc. Bon, il y a la question, bien sûr, on place, il y a l'inflation, donc bon, il faut quand même que l'argent qu'on reprend à la fin, puis on puisse l'utiliser. Mais finalement, il y a un peu dans cette idée de demander une rentabilité moindre et d'accepter de dire bon, je renonce à une partie d'intérêt, c'est de dire c'est la même chose qu'au niveau de global, pourquoi une course à la croissance alors que pourquoi est-ce qu'on chercherait toujours plus? On n'a pas forcément besoin de toujours plus, c'est plus une habitude, que ce soit pareil.
Bon, dans ça c'est un choix vraiment personnel après, hein, donc on peut choisir effectivement. Bon, je gagne pas forcément super bien ma vie, j'ai 1000 euros de revenus par mois, je peux ouvrir un compte à la nef?
Oui, ça c'est tout, y a pas de souci,
je peux même en mettre un petit peu de côté, 20 euros par mois sur un compte bloqué pendant 2 ans et choisir le secteur dans lequel je, je veux aller.
Exactement, mais on peut aussi avoir un livret d'épargne classique où quand j'ai besoin d'argent, là j'ai mis 500 euros sur mon compte et finalement là j'ai un besoin d'argent, on a aussi un livret d'épargne classique, on débloque. Il y a tous les mêmes services.
Tous les services qu'une grande banque. Est-ce qu'ils offrent les mêmes garanties quand même?
Oui, c'est les mêmes garanties.
On retire à peu près, si on place son argent pendant 8 ans sur un compte à la BNP et 8 ans à la NEF, on peut estimer pouvoir en tirer les mêmes bénéfices, tout en sachant que c'est placé dans l'environnement.
Oui, exactement. Et en plus, il faut savoir que, comme on rappelait plus tôt, il y a beaucoup de gens qui avaient, donc sur les conseils de leur chargé de clientèle dans leur banque, avaient mis leur argent dans des assurances-vie ou dans d'autres produits financiers. On leur a dit, ça vous rapportera plus, etc. Et finalement, ils ont tout perdu avec la crise financière. Donc, c'est pas forcément là où on vous vend le plus qu'à la fin, vous aurez le plus.
Vous m'avez parlé aussi de la possibilité de commencer une démarche en ligne sur un site internet. On peut aller jusqu'où dans la démarche sur internet? Est-ce qu'il y a un moment où il faut qu'on aille rencontrer un banquier ou est-ce qu'on peut ouvrir son compte en ligne sur le site de la NEF?
Alors en fait, on peut, si je me rappelle bien, je crois qu'on peut tout faire à distance si on le veut. C'est-à-dire qu'on télécharge le formulaire, on le remplit, on l'envoie par la poste, il nous renvoie d'autres documents. Donc on peut, si on veut, tout faire à distance.
Consultation des comptes aussi en ligne.
Tout est la plupart des gens qui sont à la NEF gèrent leur compte en ligne. Il y a tous les mêmes services. Mais après, comme c'est toujours souvent, on a souvent des questions dans ces moments-là, des doutes. On peut bien sûr aussi aller donc dans une agence du crédit coopératif et demander des conseils sur les comptes NEF et les produits NEF. Et là, on a des explications en direct.
Mais pensez des banques en ligne? Elles ne figurent pas dans vos classements. Je vois ING Direct, des Fortuneo, il y en a d'autres, hein, Boursorama, Banque, etc.
Ces banques en ligne, de toute façon, si on prend, je ne les connais pas toutes, mais par exemple, Boursorama, si je me rappelle bien, en fait, c'est la Société Générale, donc l'argent qui est mis dans ces banques.
Il faut le savoir, parce que ça, c'est pas forcément très transparent non plus. Chez ING, j'ai jamais réussi à trouver la piste de l'organisme financier qui se cache derrière.
J'avoue qu'ING, je ne me rappelle pas qui c'est, mais la plupart appartiennent en fait à déjà les mêmes grands groupes. Il y a une tendance générale à la concentration bancaire. Si on prend par rapport à il y a 20 ans, il y a une concentration. Même en France, on regarde Crédit Mutuel, CIC, même Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Il y a une tendance à tout regrouper. Donc finalement, on se retrouve toujours, ça revient toujours si on remonte au même...
Donc on reste sur le même raisonnement. S'il y en a une qui se distingue, c'est la NEF et le crédit coopératif qui sont adossés l'une à l'autre, en fait, finalement.
Oui, on pourrait dire ça.
Bien, alors voilà, j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Si vous vous intéressez un petit peu à l'épargne responsable, que vous voulez placer votre argent utilement en sachant qu'il ne va pas polluer la planète, apparemment... vous êtes payé par la NEF pour faire ses études, non?
Non.
C'est sûr, ça?
Non, on est...
Bon, voilà, donc apparemment, les Amis de la Terre sont vraiment indépendants. Cyril va le confirmer avec toutes les études qui sont parus sur le site, qu'on peut consulter. C'est régulier, vos publications?
On essaye de maintenir quelque chose d'assez régulier sur les banques. Donc, on en avait publié au tout départ, plus général sur l'impact sur l'environnement, après un plus sur l'impact climatique. Et on essaye d'explorer petit à petit aussi avec une étude sur les assurances le monde financier, parce que c'est pas seulement les banques, il y a aussi là de plus en plus, comme je disais plus tôt, les marchés financiers, il y a les marchés carbone aussi, la finance elle est partout, elle s'immisce partout, et nous ce qu'on essaye aussi c'est de lutter contre cette financiarisation des ressources naturelles et de transformer tous les biens naturels en quelque chose de monétarisable et qui ne devrait pas l'être.
Voilà, donc Cyril Souche de cedurable.info.
NEF d'ailleurs qui veut dire, en tout cas qui voulait dire à l'origine, nouvelle économie fraternelle, je crois. Donc
oui,
c'est
oui,
une belle utopie d'essayer de redonner à l'argent son noble sens d'échange et de solidarité. Avant de revenir très concrètement sur l'actualité des Amis de la Terre, faire peut-être un tour, parce que les Amis de la Terre sont nombreux, la Terre est vaste, et il y a d'autres axes de campagne aux Amis de la Terre que le secteur de la finance. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, donc on a plusieurs campagnes. Donc, il faut savoir, c'est que au niveau français, les Amis de la Terre aussi sont un réseau, une fédération d'associations locales. Donc il y a une vingtaine ou trentaine de groupes locaux dans différentes villes de France qui, eux, donc, sont tous formés de militants et qui aussi sont impliqués dans des problématiques locales, que ce soit la construction d'une ligne de TGV ou d'une déchetterie ou des luttes au niveau des questions agricoles contre l'utilisation des pesticides, etc. Enfin, il y a vraiment une myriade de problématiques locales. Et donc, on est tous réunis au sein de la Fédération Les Amis de la Terre France. Et on a plusieurs campagnes. Donc, il y a notamment donc, la campagne sur la responsabilité des acteurs financiers. Donc, je rappelle, il y a la partie finances privées dont je m'occupe, mais aussi une partie sur les institutions financières internationales, Banque mondiale, Banque européenne d'investissement. On a une campagne sur la responsabilité des entreprises et sur les industries extractives, donc avec toute la question qui est très d'actualité, par exemple en France, des gaz de schiste, mais aussi des sables bitumineux et plus généralement de l'exploitation du pétrole ou des mines dans le monde. On a une campagne sur les forêts et les ressources naturelles. Il y a aussi toute la question des agrocarburants et des autres fausses solutions, comme on les nomme. Bien sûr, une campagne sur le nucléaire et l'énergie qui sont un peu transversales à toutes ces campagnes. Et on a aussi des campagnes aussi très concrètes comme les campagnes sur l'habitat écologique. Et donc ça, c'est en lien aussi avec la recherche d'efficacité énergétique. Donc comment construire des logements plus sobre en énergie, comment rénover les bâtiments, mais aussi surtout sur l'accessibilité de cet habitat écologique, que ce soit pas quelque chose qui soit réservé aux plus favorisés, mais vraiment aussi donc dans tout le travail avec les bailleurs sociaux sur cette campagne.
Donc ça, c'est toutes les actions des Amis de la Terre France. Vous avez parlé de nucléaire, d'ailleurs, on va y venir parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. On peut s'interroger sur d'où vient l'argent qui finance le secteur nucléaire. Et je crois qu'il y a même un réseau international dans lequel fait partie les Amis de la Terre international. Nucleares, Banks, No Thanks, les banques pour le nucléaire, non merci.
Oui, alors j'ai juste oublié, enfin j'ai dû en oublier d'autres, mais dans les campagnes au niveau de l'Amis de la Terre France, il y a aussi toute une campagne sur les modes de production et consommation durable, donc toutes les questions aussi des déchets et de l'obsolescence programmée. Et donc dans toutes ces campagnes, on fait partie de partenariats et de réseaux internationaux d'organisations de la société civile. Donc sur les campagnes finances, c'est le réseau BankTrack, et donc plusieurs membres de BankTrack sont membres de cette coalition Banque Nucléaire Non Merci. Et donc on a sorti l'année dernière non seulement un site nuclearbanks.org, malheureusement il est que en anglais pour l'instant, et une étude sur plus de 100 banques au niveau mondial et finalement quelles étaient celles qui finançaient le plus le nucléaire. Et là, malheureusement, on retrouve, sans surprise, vraiment, vu l'importance du secteur nucléaire en France, mais c'est les banques françaises. Donc, il y a BNP en numéro 1 avec, entre 2000 et 2009, plus de 13 milliards d'investissements et financements dans le secteur nucléaire. Donc, c'est pas seulement les centrales nucléaires, mais vraiment en partant depuis la mine d'uranium.
On peut pas leur reprocher en même temps d'être dans le financement d'une activité qui est fortement émettrice de CO2, puisque justement, le discours du nucléaire français, c'est de dire que c'est une énergie zéro CO2. Mm. Donc comment les Amis de la Terre se positionnent par rapport à ça? On n'est plus dans un problème lié au changement climatique, on est plus lié dans les problèmes de déchets, de pollution ou d'extraction de minerais comme l'uranium.
Alors oui, nous, ce qu'on insiste surtout, c'est de lutter contre cette fausse solution de dire que le nucléaire serait la voie pour lutter contre le changement climatique. L'impact climatique, c'est un des impacts et un impact important, mais il faut toujours être multicritère. Et le secteur nucléaire, on a une campagne depuis des années contre le nucléaire parce que on l'a bien vu avec les événements récents, le risque zéro n'existe pas donc c'est trop dangereux de jouer avec ça. Et en plus, on nous vend aussi le mensonge que le secteur nucléaire serait une énergie moins chère, alors que pourquoi est-ce qu'il se maintient? C'est parce qu'il y a d'une part de grosses subventions publiques et d'autre part parce que tout ce qui est coût de démantèlement des centrales, de traitement des déchets, n'est que peu prise en compte et finalement on ne sait vraiment pas combien ça nous coûtera. C'est pour des années, on en prend pour des années et des décennies avec ces problématiques.
Voire des centaines ou des milliers d'années. Ces campagnes contre la construction de centrales nucléaires, elles sont adressées à qui? Tous azimuts, le gouvernement, les pouvoirs publics, mais aussi les citoyens? les industriels.
Oui. Bah alors en France, on a donc toute une campagne aussi sur la question de la fermeture, donc la sortie du nucléaire et déjà commencer par la fermeture des centrales les plus anciennes. Et au niveau international, c'est essayer que ce soit au niveau donc public et des industriels et surtout aussi des banques qui les financent, d'arrêter cette exportation française, d'essayer de mettre des centrales un peu partout. On est actuellement en opposition, et donc pareil avec d'autres organisations au niveau international, contre la construction d'une centrale en Inde qui s'appelle Jaitapur. Il faut savoir que cette centrale, donc ça fait déjà au moins un an qu'on fait campagne là-dessus. Cette centrale, elle est construite en zone très fortement sismique avec des risques jusqu'à 7 sur l'échelle de Richter. Et elle rencontre une forte opposition des populations. Donc elle concentre un peu tout le pire qu'on pourrait avoir dans le nucléaire. Et malgré ça, que ce soit au niveau du gouvernement français, d'Areva ou des banques, on espère que ça va les faire hésiter un peu plus. Mais pour l'instant, ils disent on va continuer, alors que c'est un des projets vraiment les plus dangereux qui pourraient être construits.
Alors, j'ai une question. Je vois le prix de l'électricité. Je le constate comme tous les Français, d'ailleurs. Le prix de l'électricité qui n'arrête pas d'augmenter. Le prix du gaz, il y a quelques jours. Je me dis, bon, pourtant, la consommation énergétique de la France n'est pas croissante au point de l'augmenter chaque année d'autant. Mais en revanche, j'entends dans l'actualité de ces organismes, EDF, GDF, Suez et compagnie, qu'elles vont investir, construire des centrales à l'étranger, développer des activités à l'étranger. Est-ce que notre facture d'électricité, notre facture de gaz paye ces investissements à l'étranger?
Bah c'est surtout, c'est en partie, mais c'est surtout aussi nos impôts, parce que comme je disais, il y a un grand soutien par l'État. Faut savoir que les banques privées, le secteur nucléaire est tellement risqué que les banques privées, elles ne s'y aventureraient pas toutes seules. Et donc, en fait, quand elles font un prêt, donc c'est des milliards d'euros pour la construction d'une centrale nucléaire, elles ne le font que s'il y a une garantie d'État par ce qu'on appelle les agences de crédit à l'exportation. Donc, en France, c'est la COFAS qui dit, bon, si l'entreprise ou le pays importateur ne paye pas, je paierai. Donc, c'est un mécanisme pour soutenir les exportations françaises, mais finalement au détriment des règles environnementales, sociales, des droits de l'homme aussi souvent. Et quand on va questionner ces institutions comme la COFAS, ils nous disent bah oui, mais si on met des exigences plus hautes, on va perdre des parts de marché. Donc après, il faut un jour faire un choix. Est-ce qu'on privilégie les parts de marché de nos entreprises ou le respect des droits sociaux, environnementaux et des droits de l'homme en général?
Toujours cette question de choix, donc.
L'environnement, c'est cher, entre les arbitrages économiques. Vous avez dû toucher du doigt quand même ce discours, ce double discours même parfois, entre le politique qui est en faveur parfois d'une révolution écologique, et puis finalement, au vu des intérêts économiques des différentes parties prenantes, les choses se détricotent, les accords deviennent plus light, et finalement, les prises de décision qui sont nécessaires ne sont pas forcément prises. Vous avez vécu ça, notamment en matière financière?
On ressent tous les jours, mais c'est pas un secret, le lobby financier qui est exercé, que ce soit en France ou aussi au niveau européen, pour qu'il n'y ait pas plus davantage de régulation, et ça se passe aussi dans un grand nombre de secteurs, et ça fait que il y a ce mensonge de que faire quelque chose d'écologique, ça serait plus cher. Mais non, il y a par exemple 1 euro investi dans des recherches en efficacité énergétique, ça nous importera beaucoup plus qu'un euro investi dans le nucléaire. Souvent, le nucléaire, par exemple, c'est un peu un puits sans fond. On regarde avec la construction de la centrale en Finlande, où les coûts augmentent chaque jour. Et ça, ce qu'il faut avoir bien confiance, c'est que c'est nous, tous les citoyens, qui le payons avec nos impôts.
Alors, il y a une campagne dans l'avenir qui est prévue, qui est une campagne commune avec une autre association qui, elle, est exclusivement dédiée à TAC, donc à essayer de lutter contre toutes ces injustices financières. Et elle va s'intéresser un peu à l'impact social, environnemental, la prise de risque des investissements par les banques, comment sont pris en compte les salariés, etc. Parlez-nous un petit peu de cette campagne à venir.
Oui, là, on s'allie à TAC. Bon, savoir que les Amis de la Terre font partie des membres fondateurs d'ATAC, pour un peu aussi allier un peu ces différences d'approche et avoir une analyse plus globale. Et donc, on va lancer là dans 10 jours, donc 13 avril, à l'occasion la nouvelle réunion du G20 à Finance à Washington, une campagne à nous les banques, donc pour reprendre vraiment le contrôle citoyen sur les banques, qui va commencer par une semaine d'évaluation citoyenne des banques. Donc il y a un questionnaire qui sera à remettre aux banques, qui sera à disposition de tout un chacun, qui pourra aller voir son agence locale ou demander à son directeur d'agence. Et donc en demandant des comptes non seulement sur ces questions d'impact social et environnemental dont on a parlé, mais aussi sur quelle est la prise de risque et donc toute l'implication dans les crises financières, comment sont traités les salariés de la banque, comment sont traités les clients avec toutes les commissions et surcommissions qu'on nous fait payer, et donc vraiment aller demander des comptes à notre banque, parce que c'est quand même notre argent qui est. Et donc on encourage tout le monde à participer à cette campagne avec des actions qui seront tout au long de l'année.
Comment ça se passe exactement? Alors, j'ai pas bien compris le lien entre le rendez-vous de Washington, l'implication du public.
Alors, en fait, le rendez-vous de Washington, c'est juste, parce qu'il y a ça, et aussi il y a l'assemblée annuelle de la Banque mondiale, du FMI, etc. C'est plus symbolique de dire, pendant qu'ils se réunissent à Washington, aux États-Unis, pour essayer de façon totalement illégitime, de décider l'avenir du monde entier, c'est remettre au niveau local le centre sur ce qui était aussi les responsables de la crise financière, donc les banques aussi, et d'aller commencer à reprendre le contrôle citoyen sur ce qui est fait dans le système bancaire, et aussi non seulement dénoncer ce qui ne va pas, mais des propositions de qu'est-ce que serait un système bancaire qui serait plus au service de la société, des citoyens, et non des intérêts économiques.
Et qu'est-ce que vous mettez comme outil à disposition du grand public, alors, pour aller demander des comptes à son banquier?
Alors, pour l'instant, on a élaboré un questionnaire, donc avec une vingtaine de questions sur ces différentes thématiques, donc prise de risque, relation avec les clients, relation avec les salariés, impact social et environnemental et démocratie, donc dans tout ce qui est aussi les banques mutualistes, donc de la prise de décision dans les banques. Donc ça, c'est un premier outil, mais il y en aura d'autres qui pourront, avec des choses plus pédagogiques et des débats qui seront organisés avec une forte composante locale aussi de cette campagne.
C'est-à-dire que ce formulaire, on le trouve sur votre site?
Alors, on va le mettre en ligne donc le 13 avril. Et donc,
Qu'est-ce qu'on fait? On l'imprime?
Vous l'imprimez. Vous pouvez aller, si dans votre ville, il y a soit un groupe local d'attaque, soit des Amis de la Terre. Donc ça, faut aller voir sur les sites d'attaque et des Amis de la Terre où est-ce qu'il y a des groupes locaux. Allez voir. Puis il y en a beaucoup qui vont aller faire des remises collectives avec, à cette occasion, pas seulement une action d'interpellation devant les agences des banques, ou sinon aller prendre rendez-vous avec son conseiller.
C'est ça, c'est-à-dire une démarche très personnelle d'aller demander où est notre argent, ce qu'il fait, sont payés les salariés, etc. C'est amusant, je relis ça avec un responsable de WWF qui est venu sur notre plateau hier et qui nous expliquait comment il essayait de faire en sorte qu'il y ait plus de bio à la cantine. Et un peu avec le même genre d'outils, il y a un petit questionnaire et il demande finalement aux parents d'élèves d'aller voir les directeurs, d'aller voir les élus et de leur dire je veux du bio à la cantine, il faut militer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment maintenant qu'on agisse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde est un petit peu endormi et vous demandez finalement de devenir des acteurs.
Exactement. Oui,
il faut vraiment qu'on se bouge, qu'on fasse des gestes concrets. Et vous mettez tous les uns et les autres finalement des outils à notre disposition. J'ai envie de dire, il est fini le temps où on déléguait notre pouvoir justement aux associations, à des responsables.
C'est-à-dire qu'on peut déléguer comme quand on élit nos représentants, mais après il faut qu'on exerce le contrôle sur ce pourquoi on est élu. Il faut se rappeler que quand même ils sont là pour défendre l'intérêt général et donc voir si ça continue à être fait. Donc les comptes, donc voilà, là nous on demande d'aller demander des comptes à nos banques, mais il faut aussi, comme vous disiez, demander des comptes aux élus locaux, aux élus régionaux, aux élus nationaux, et exercer un vrai contrôle citoyen et cette vraie démocratie aussi directe qui est importante dans tous les secteurs.
Il faut se réimpliquer, quoi.
Ce qui est très intéressant dans cette campagne, c'est qu'elle est double, c'est-à-dire qu'elle est à la fois utile pour sensibiliser les gens, parce que j'imagine que en développant ce questionnaire, on s'aperçoit soi-même qu'il peut y avoir des impacts qu'on n'aurait pas du tout imaginé au départ, et en même temps, ça va sensibiliser en interne les personnes auxquelles ces personnes vont poser les questions, et j'imagine que les Amis de la Terre vont ensuite publier un rapport sur les résultats de ces questionnaires.
Exactement. Donc l'idée, pas un rapport, mais l'idée, c'est d'obtenir toutes les réponses pour le 15 mai pour pouvoir les avait publié les résultats donc vers le 20-25 mai au moment du G8 à Deauville. Et donc on espère avoir un grand nombre de réponses, mais aussi les non-réponses sont souvent révélateurs, et donc avoir une évaluation aussi banque par banque, parce que même dans des banques qui ne seraient pas impliquées, voilà, dans des projets controversés, etc., il peut y avoir d'autres problèmes, et donc vraiment de demander des comptes à toutes ces banques sur tous ces aspects. On a aussi plusieurs actions avec des syndicats de salariés de ces banques, parce que voilà, il y en a beaucoup aussi au niveau des salariés qui ne sont pas conscients de tout ce qui se passe et qui aussi souffrent de certaines évolutions du secteur bancaire.
Donc en tout cas, avec Fréquence Terre, cdurable.info sera au rendez-vous. On fera partie de ceux qui se feront l'écho des résultats de cette campagne de sensibilisation pour demander des comptes à nos banques. Je rappelle le site de l'action et de la campagne sur la finance des Amis de la Terre, c'est Finance Responsable. Au singulier, tout attaché, financeresponsable.org, et également le site institutionnel des Amis de la Terre, amisdelaterre, tout attaché aussi, .org.
Alors moi, pour conclure, parce qu'on approche de la fin, je vais vous faire rappeler tout à l'heure, je vais vous le redonner, je pense que vous l'avez mémorisé, mais le classement des plus mauvaises banques et des meilleures. Comment est financée l'association des Amis de la Terre?
Alors donc nous on reçoit pas de financement d'entreprise. On a 30% de nos financements viennent de nos adhérents et des dons. Et après 70%, le reste ça vient pour grande part de financement de subventions publiques, que ce soit de l'Union européenne, du ministère de l'Environnement ou des financements au niveau régional, et une petite part aussi de fondations philanthropiques privées. Donc on présente des projets, par exemple voilà, comme une campagne de type de celle dont on a parlé, pour pouvoir réaliser nos actions.
Donc on peut faire des dons et participer aussi hein, comme ça à la vie de votre association.
Exactement.
Et impulser un petit peu vos actions. Alors le classement donc des banques, ouvrez bien les oreilles, ça va vous faire mal. Hein.
donc
les plus mauvaises banques d'abord.
Les plus mauvaises d'abord. Donc on avait, bon, je rappelle, donc les plus grosses BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Après, dans le
Il y a trois classements, c'est ça. Il y a les trois en rouge, là. Qu'est-ce qu'elles ont, celles-là? C'est les pires, hein, c'est ça?
C'est celles qui sont les plus impliquées dans ce qu'on appelle voilà, tous les projets controversés et les financements d'entreprises et les plus polluantes.
Et les banques intermédiaires.
Ensuite, intermédiaires. Donc, c'est aussi intermédiaire et aussi une question de taille, quand même, il faut le rappeler. Mais ce n'est pas seulement. Donc, on a Crédit Mutuel CIC, sachant que le CIC commence à être impliqué dans certains projets controversés. C'est ce qu'on voyait moins jusqu'à maintenant.
Donc ils vont passer du orange au rouge.
Je ne sais pas, j'espère pas, mais en tout cas ils ne s'expliquent pas beaucoup en plus sur cette implication. Et après on a Caisse d'Épargne, Banque Populaire, la Banque Postale qui fait aussi partie. Il faut savoir avec le Crédit Coopératif et la Nef, des banques qui ne sont pas présentes dans les paradis fiscaux, parce qu'il y a aussi toute cette sur cette question sur laquelle on s'intéresse. Et après, dans les plus vertueuses, on dirait donc le Crédit Coopératif et la Nef sur laquelle on s'est attardé.
Voilà, vous pouvez retrouver ces informations sur le site des Amis de la Terre. Merci Juliette Renaud, vous êtes responsable des campagnes finances des Amis de la Terre. On va se quitter. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à Paris, ça continue en direct du Salon Planète Durable. À tout de suite.
Fréquence Terre, la radio nature.